Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà, donc 7h08. Est-ce que vous avez bien branché les horloges? Est-ce que vous les avez bien mises à l'heure? Voilà, on est passé à l'heure d'hiver, les amis. Hein, donc, il est bien 7h08. Et on est très heureux de vous retrouver. 3 heures d'auto, c'est maintenant sur RMC, comme chaque dimanche. Jean-Luc Moreau, rebonjour, Mister.
Bonjour, Monsieur François. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et encore un grand merci à tous les auditeurs de la région de Marseille qui sont passés me voir hier. Franchement, ça m'a fait vraiment super plaisir.
On dirait un peu Mick Jagger qui revient d'un concert et qui dit thank you.
Thank you everybody.
C'est ça. Hein, c'est fou quand même.
Ouais,
hein.
J'ai moins parlé anglais hier.
Jean-Luc Moreau on tour. Ah, voilà, yes. C'était l'occasion d'une opération qui s'est terminée d'ailleurs, qui était avec la Banque Postale.
Oui, c'était une opération avec la Banque Postale qui s'est terminée hier à Marseille.
Centres commerciaux. Ouais, voilà. Très bien, vous étiez donc.
Et en apothéose, on peut le dire.
Comment?
Pardon. C'est terminé en apothéose.
En apothéose, bien sûr. Jean-Luc, 3 heures d'auto, c'est maintenant, on est en direct. Vos questions, 32-16, Jean nous attend, on va le retrouver dans une minute. On va évoquer donc tout à l'heure, on le disait, Land Rover France qui mise sur l'hybride éthanol. Voilà une bonne solution, on en parlera avec le directeur général. Bon plan sécurité sur la route, changement d'heure, attention. Il y a des dangers, Jean-Luc va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Le retour de Hummer dans la minute verte, Jean-Luc.
Exactement.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Alors, l'icône.
Vous êtes vraiment de mauvaise Hummer, ouais, c'est ça.
Non, mais c'était l'icône de la voiture sale. On disait Hummer, c'était. Hummer, voilà. Ils sont le Hummer est de retour, mais alors il a effectué un virage à 180 degrés, puisque le nouveau Hummer, il est 100% électrique.
Ça, c'est bien, bravo.
Voilà. Et il intègre des nouveautés, en particulier. Tiens. En matière de batterie.
Ah oui, bien, on en parlera tout à l'heure. L'actu de la semaine dans le monde de l'auto. Céline Kastner, vous le savez, qui s'occupe de l'Automobile Club, l'association sera avec nous. Et on évoquera en fait l'achat ou la vente de véhicules d'occasion. Que faut-il faire lorsque l'annonce ne correspond pas au véhicule d'occasion qu'on a acheté?
Oui, par exemple, vous avez une annonce vent Renault Fuego quasi neuve, jamais tombé en panne, toujours bien entretenu, pas de bosse sur la carrosserie. Oui. Et quand vous arrivez, c'est la voiture François. Donc forcément, la déception est forte. Est-ce que le fait qu'il ait écrit des mensonges sur son annonce, ça peut impacter la vente?
Moi, je pense que oui, mais on en parlera tout à l'heure.
Oui, vous allez voir, mais alors, ça est valable aussi pour les professionnels, bien évidemment.
Bien évidemment. L'essai de la semaine, ce sera l'Opel Corsa i. Ça y est, une Opel Corsa électrique qui arrive. Jean-Luc l'a testé. Il nous dira ce qu'il en pense. Qui a inventé le klaxon dans la question pas si bête? Et on évoquera
Gérard Klaxon.
C'est Gérard Klaxon? Ouais,
Jérémy Klaxon, je crois.
Jérémy Klaxon.
Ah, il faisait une émission sur la BBC Top Gear.
Ah, d'accord. Ah, peut-être aussi. On retrouvera tout ça tout à l'heure. Et puis, notre rendez-vous sur le vif avec le pneu hiver qui va devenir obligatoire dans certaines régions.
Ouais, on vous dira quand, comment
et pourquoi.
Quel type de pneu? Qu'est-ce qu'on appelle le pneu hiver? Tiens,
ben voilà.
Est-ce que le fameux 4 saisons que vous aimez beaucoup à la pizzeria sera autorisé comme pneu hiver?
32-16. L'appli RMC Direct Studio, ça va être chaud ce matin, mesdames, messieurs. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On attaque tout de suite. Et c'est Jean qui est là.
Bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Jean.
Bonjour Jean.
Merci de m'accueillir et merci pour votre émission qui est super instructive. On apprend énormément.
Bien, écoutez, c'est gentil Jean. Vous nous appelez alors Franchement, vous habitez une ville qui est faite pour notre émission. Auto, c'est Carrosse. Donc c'est nickel. On est parfait. Pour commencer, c'est très bien. Carrosse qui est dans les Alpes-Maritimes, bien évidemment.
Oui. Faudra pas qu'elle se transforme en citrouille la semaine prochaine.
Ah non, mais Jean n'est pas une princesse. Jean est bien au-delà de ça.
C'est Halloween quand même.
Oui, c'est vrai que c'est
Halloween. Ah bah oui, mais c'est pour ça. Oui,
bien sûr.
J'ai des belles citrouilles à la maison d'ailleurs. Je vous en rapporterai une, François.
Pourquoi
pas. Pour décorer la Fuego, ça serait superbe. C'est la même couleur.
Ah oui, en plus. Jean, excusez-nous. Allez-y, qu'est-ce qui vous arrive?
Je vous en prie, je vous en prie. Je vous donne un conseil de Jean-Luc. Je voudrais changer de voiture et me débarrasser de la Picasso C3. J'ai eu pas mal d'ennuis. Et je suis tenté par la Dacia Sandero Stepway qui fait GPL. Et je voudrais savoir en boîte automatique ce qui se fait ici. Quel système?
Alors, le problème, c'est que, alors déjà, la Sandero, elle va être changée. Je ne sais pas, vous avez peut-être dû voir dans la presse, on en a parlé il y a 15 jours, il y a un nouveau modèle qui va arriver. Franchement, le nouveau modèle, il est sexy. C'est vrai, cette voiture, elle est née. Alors, elle était déjà dès le départ, la Sandero, elle était un petit peu plus sexy que la Logan. La Logan, c'était vraiment la première Logan, c'était vraiment la voiture basique. Et quand la Sandero est arrivée.
C'était une brique sur roue, hein,
ouais,
la Logan.
Mais c'est ça. Mais en fait, on avait construit simple pour faire pas cher.
Et oui.
Donc, il n'y avait pas vraiment de design.
Oui, le design n'était pas le plus important.
C'était pas la priorité. La priorité, c'était le prix. Bon, quand la Sandero est arrivée, elle a introduit un petit peu de sex appeal chez Dacia.
Et pourtant, elle n'est même pas électrique.
Non, il y aura peut-être un jour une version, peut-être une Dacia électrique bientôt d'ailleurs.
Sans doute.
Il est fort probable qu'il y en ait une bientôt.
Bien sûr.
Ils l'ont annoncé qu'il serait la voiture électrique la moins chère du marché français.
Pardon.
Elle va arriver en 2021.
Petite parenthèse.
Voilà. Donc, la Sandero a évolué depuis. On va avoir encore une nouvelle génération et au fil des générations, elle est devenue de plus en plus belle. Et la prochaine, franchement, moi je la trouve très belle. Voilà. Donc, alors, est-ce que vous voulez la génération actuelle ou la prochaine? Ça, c'est la première question. Et la deuxième que vous me posez. Alors, oui, il y a un moteur. Alors, il s'appelle le TCE 100 Eco G maintenant. Donc, c'est un moteur 3 cylindres essence qui fait 100 chevaux et qui accepte le GPL. Vous avez un réservoir de GPL en plus qui est vendu au même prix que l'essence. C'est la bonne affaire
du
moment.
Ça, c'est bien.
On en a parlé la semaine dernière dans la Minute Verte. C'est vraiment, si vous devez acheter une Dacia essence, prenez automatiquement. D'ailleurs, tiens, il faudra que je vérifie les chiffres. Entre les modèles essence et GPL, qu'est-ce qu'il y a comme différence sur les ventes? Que représente le GPL dans les ventes de modèles essence Dacia?
Oui, c'est vrai.
Mais bon, si vous devez en acheter une, il vaut mieux prendre la version GPL.
On ne peut pas mettre de l'éthanol dedans, dans ce moteur-là?
Moi, je vais vous dire si, puisque souvenez-vous...
Vous vous rendez compte, éthanol GPL?
Souvenez-vous quand la Clio
est sortie, vous avait murmuré à l'oreille.
Ouais, le TCE 100, donc, qui est aussi dans la Clio, il mange de l'éthanol. Il n'est pas homologué pour. Donc Renault vous dira non, mais par contre, si vous en mettez dedans...
Il aurait été conçu pour, en fait.
Il a été conçu pour accepter de l'éthanol. Il peut accepter du E85, qui n'est jamais du E85. Même en plein été, on est à... Moi, je suis... à E73, 75% d'éthanol maximum. J'ai jamais eu plus. Alors, il y a peut-être des pompes où il y a du 85, mais ça, c'est extrêmement rare. Donc, ce moteur, qui est quand même plutôt réussi, sera disponible sur la nouvelle Sandero. Le souci, c'est que vous voulez une boîte auto et il n'est pas prévu sur ce moteur-là qu'il y ait la boîte automatique. Il y aura une boîte à transmission à variation continue qui s'appelle la X-Tronic qui est disponible sur la Clio, mais elle ne sera pas disponible sur la version GPL qui est disponible qu'avec une boîte manuelle à 6 vitesses. Donc c'est où je prends la Sandero avec la boîte auto ou je prends la Sandero en GPL. Pour vous, la première priorité, c'est quoi?
Ok, non, je voulais passer à l'automatique pour plus de tranquillité,
Vous
de
avez
confort.
Raison, vous avez raison.
Une boîte à variation, c'est pas top.
Il faut s'habituer, vous savez, c'est ce fameux, ce que j'appelle l'effet mobilette, moi, quand on accélère.
Voilà.
Ça vous rappellera votre jeunesse.
Oui, d'accord.
Si vous avez fait de la mobilette.
Oui, mais c'est loin, mais bon.
Voilà. Mais de toute façon, si vous voulez la GPL, il n'y a pas de boîte automatique de prévu pour le moment.
D'accord.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Parce qu'à chaque fois que Dacia nous a dit oui, il n'y aura jamais de GPS dans les voitures, bon, il y en a eu juste à la suite. Oui, il n'y aura jamais de boîte automatique sur les Dacia, il y en a eu. Donc, bon, on va dire qu'il ne faut jamais dire jamais en la matière. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle demande sur la boîte auto qu'il y aura sans doute sur les versions GPL de la Sandero, il y aura sans doute une boîte automatique de disponible.
Bon, d'accord.
Bon, sinon vous perdez rien. Le modèle qui existe actuellement, là, avant le remplacement, la Sandero est disponible avec une boîte automatique aussi, qu'une boîte robotisée à simple embrayage. Et franchement, c'est pas un modèle d'agrément. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. Non, mais voilà.
Ah, d'accord.
Voilà.
Donc on laisse tomber ça.
Donc laisser tomber, c'est pas terrible. En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça et pas une double embrayage? C'est une question de prise, tout simplement.
Eh oui,
parce que c'est une boîte qui vaut 600 euros et une boîte double embrayage, ça vaut le double. Et puis
bien sûr.
Voilà,
Jean.
Dommage. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bon dimanche, Jean, et à très bientôt.
Merci. Bonne émission. Au revoir.
Merci. Bonne émission. Voilà un auditeur qui prend soin des animateurs. Voilà, il nous souhaite bonne émission.
Ouais, mais j'ai été très, très, très surpris par les réactions des gens qui étaient extrêmement gentils. Franchement, on aurait cru que quelqu'un leur avait donné un peu d'argent pour venir faire des compliments.
Ah, on vous a pas tenu au courant?
Ah non?
C'était ça.
Ah bah ouais.
À chaque compliment, il recevait 10 euros.
10 euros. Il aurait fallu distribuer des sous hier, alors.
Notre auditeur nous a appelé au 32-16. Faites de même. À tout moment, vous pouvez joindre Jean-Luc et poser votre question auto. On est en direct, bien sûr. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et dans l'immédiat, c'est notre bon plan sécurité.
RMC, votre auto.
Et Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là ?
Le bon plan sécurité.
Et ce plan génial, messieurs, essayez.
Jean-Luc Moreau.
Alors Jean-Luc, cette nuit, on vient de passer à l'heure d'hiver. La bonne nouvelle.
Sauf la pendule chez nous, mais bon. Ouais.
La pendule chez nous, je pense qu'elle est un petit peu paresseuse. La bonne nouvelle, c'est qu'on a dormi une heure de plus, donc, enfin, si tout va bien. La mauvaise, c'est que ce changement d'heure fait augmenter le nombre d'accidents.
Ouais, alors pour rappel, François, avant de rentrer dans le détail de ça, le changement de l'heure d'été, le changement d'heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier. Oui. C'était en 73-74. C'était pour des soucis d'économie d'énergie. Bon, il y a eu plein d'études faites depuis. On se rend compte qu'on n'a rien économisé du tout.
Oui, c'est pas très efficace.
C'est pas très efficace. En revanche, ce qui est bien mesuré, c'est une augmentation importante de la mortalité des piétons à cette période précise.
Tiens, et c'est significatif cette augmentation ?
Ouais, plutôt. Hein, l'étude sur les tranches horaires de la journée révèle une augmentation de 42% lors de l'heure de pointe du soir, c'est-à-dire entre 17h et 19h, et plus de 14% lors de la pointe du matin, entre 7h et 9h.
Et c'est dû à quoi alors ?
Bah, à cause de ce recul d'une heure, la nuit tombe plus tôt, hein, ça on va le mesurer ce soir, et surtout, durant l'heure de pointe, des déplacements domicile-travail du soir. Les premiers temps, les automobilistes sont aussi moins habitués à ce que la nuit tombe aussi vite. Enfin, l'éclairage public n'est pas toujours allumé. Il n'est pas forcément remis à l'heure, c'est le cas de le dire, dès que la nuit tombe.
Ils ont peut-être la même pendule que
bah
nous.
Bah oui, ils ont la même pendule que nous.
Les lampadaires.
Ça, ouais, c'est ça.
Est-ce que cette hausse de la mortalité touche seulement les piétons, Jean-Luc ?
Alors, jusqu'à présent, ça touchait principalement les piétons, mais il va falloir ajouter une autre catégorie d'usagers de plus en plus présente sur les routes, en particulier dans les agglomérations. C'est les cyclistes, leur nombre a doublé et la mortalité grimpe en flèche. En septembre, je vous rappelle, 37 cyclistes ont été tués, soit le chiffre le plus élevé de ces 10 dernières années.
Pourquoi est-ce que les usagers sont plus vulnérables que les autres à ce moment précis de l'année ?
En fait, ils sont difficilement perçus par les autres usagers, mais ce qui est piégeux, c'est qu'ils ont le sentiment d'être vus, parce qu'eux, ils voient les voitures qui sont éclairées,
et voilà.
Donc ils se disent, je les vois, donc ils me voient, non.
Et non. Que faut-il faire alors pour se protéger ?
Il faut mettre des vêtements plus clairs, et puis si pour les enfants, des cartables avec des bandes réfléchissantes. Dans les phares d'une voiture, les piétons sont visibles à seulement 20 mètres lorsqu'ils sont vêtus de noir, avec des accessoires réfléchissants, ils sont visibles à 150 mètres. Ouais, ça permet quand même de réagir.
Ouais, ça change tout. Est-ce qu'il n'y a pas des équipements obligatoires en fait ?
Pour les cyclistes, on va rappeler qu'un enfant doit porter un casque jusqu'à l'âge de 12 ans. Le non-port du casque, c'est d'ailleurs un PV qui peut aller jusqu'à 750 €. Hors agglomération, il faut aussi porter un gilet jaune, sinon PV jusqu'à 150 €. Il faut aussi une sonnette en bon état et bien évidemment un éclairage fonctionnel, on va le répéter, sinon c'est 2 PV à 38 €. Moi j'ai vu hier soir, j'ai vu des vélos encore qui circulaient sans lumière.
Oh là là.
C'est du suicide.
Ouais, c'est du suicide. Non mais c'est vrai, c'est clair. En plus en ces temps où il fait...
Ouais, il commence à faire nuit tôt.
Oui,
voilà. Enfin... Et puis surtout, vous êtes sans lumière et puis vous faites n'importe quoi, vous passez au feu rouge et vous déboulez dans un carrefour. Imaginez pas si vous êtes habillé en noir qu'on va vous voir. On vous verra au dernier moment et c'est trop tard.
C'est vous qui avez déboulé dans un carrefour hier ? Mais à Marseille ?
Oui, c'est ça.
C'est pas le même.
C'est ça.
Ça vous fait rigoler. Hein,
Oui. C'est vrai que c'était plutôt bien trouvé.
C'était plutôt bien trouvé.
Comme quoi, le hasard, des fois.
Ouais. Walid nous dit, est-ce que Jean-Luc nous a ramené des chocolatines ce matin ? Donc déjà, Walid
alors,
est en Bordeaux.
Alors, il y en a, ouais. Puis c'est François qui les ramène, les chocolatines, ce dimanche matin.
C'est pas Jean-Luc qui les ramène, il n'a pas de boulangerie dans son patelin. 8h22, Laurent est avec nous au 32-16. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Bonjour Laurent.
Je suis un peu ému de vous avoir au téléphone, je vous avoue.
Ah bon ?
Parce que, oui, ça fait de nombreuses années que je vous écoute.
D'accord.
Et vous êtes une voix qui m'accompagne un petit peu dans la semaine. Et ça fait quelque chose, quoi, de vous avoir en vrai.
Bon, vous avez un Kleenex à côté de vous ou vous allez tenir le coup quand même, Laurent ?
On existe en vrai, en fait, c'est ça le truc.
Ouais, et croyez-moi, c'est pas joli. Hein.
Oui, mais en tout cas, merci pour votre émission, le ton, la bonne humeur qu'elle apporte, et en plus, coup de chance pour moi, les sujets m'intéressent.
Bon, tant mieux, Laurent. Oui. Merci beaucoup, au revoir alors, à bientôt. Non, vous aviez une question, je crois, quand même.
Oui, voilà, j'ai une question. Moi, j'ai une voiture essence injection directe de 7 chevaux fiscaux.
C'est quoi comme modèle ?
Alors, c'est Mazda CX-3.
D'accord.
Donc, j'en suis très content. Et quand je l'ai acheté, c'était en vue de la faire équiper d'un boîtier bioéthanol homologué.
D'accord.
Donc, du coup, j'ai pris quelques renseignements auprès de FlexFuel, auprès de Biomotors avant de l'acheter. Les deux m'ont répondu que oui, c'était possible. Et du coup, j'ai décidé de la faire équiper. Je suis allé dans un centre Norauto qui était à côté de mon lieu de travail pour la faire équiper d'un boîtier FlexFuel. Et en fait, là, on en est à 6 séances de réglage. Et j'ai toujours un voyant défaut moteur qui s'allume au tableau de bord. Et donc, ma question, c'était...
Et c'est quoi ? Alors, vous avez quoi comme moteur sur votre CX-3, là ?
Alors, c'est le 2 litres Skyactiv G. Ah,
voilà. En fait, vous avez, alors les moteurs Mazda ont une particularité, j'aime beaucoup Mazda pour ça, parce qu'ils ont toujours des originalités en matière de conception technique. Ils ont des vrais ingénieurs qui cherchent des solutions innovantes. Et en particulier, alors ils en ont eu sur le diesel pour arriver à éliminer les oxydes d'azote dès la chambre de combustion et pas avoir besoin d'une usine à gaz derrière pour dépolluer les gaz d'échappement. Et ils ont fait un peu la même chose pour consommer moins sur les moteurs essence qui ont un taux de compression très élevé. Et alors, est-ce que ça peut poser un problème d'adaptation à l'éthanol ? Sans doute. Donc ce moteur-là, est-ce qu'il est adapté ? À vrai dire, c'est la première fois qu'on me pose la question, mais il peut y avoir effectivement une incompatibilité pour l'usage de l'éthanol avec ce moteur-là. Bon, a priori, ça devrait être le contraire. Plus on a un taux de compression élevé, plus l'éthanol sera à l'aise avec le moteur. Mais il y a sans doute des phases de fonctionnement où les boîtiers ne prennent pas en compte ce type de cartographie moteur. Vous savez, en fait, les boîtiers d'adaptation à l'éthanol, c'est extrêmement simple. C'est juste, on augmente les temps d'injection, c'est tout. Ils n'ont pas dessus de modification de la cartographie de l'allumage. C'est dommage, d'ailleurs, c'est pour ça que les systèmes, on en parlera tout à l'heure, qui sont installés en usine par les constructeurs, sont plus performants que les boîtiers qui sont mis en aftermarket. C'est aussi pour ça que la fiabilité des systèmes usine est supérieure à celle des boîtiers qui sont installés en seconde monde. Bon, dans votre cas, je ne suis pas étonné que vous ayez des soucis. Je n'ai pas la réponse à vos problèmes, malheureusement, si ce n'est que de vous dire, attention, c'est un moteur, les moteurs Skyactiv ont un fonctionnement qui n'est pas le même que les autres moteurs. Votre moteur essence, il ne fonctionne pas comme un moteur traditionnel. Donc c'est possible que les boîtiers qui ont été faits par les constructeurs
ne prennent pas en compte le fonctionnement de ce moteur.
Donc vous n'arriverez jamais à le régler. Donc je pense que la meilleure solution, c'est de virer le boîtier. Et vous savez quoi ? Vous testez l'éthanol sans le boîtier, je pense que ça marchera même mieux qu'avec le boîtier. C'est possible en plus.
C'est ça qu'il faut. Oui, mais bon. Elle a quel âge, votre voiture ?
Elle est de janvier 2019.
D'accord. Mais alors, attendez, elle n'a pas un filtre à particules, votre voiture ?
Non, elle n'a pas de filtre à particules, justement.
D'accord. Oui, bon, alors, en fait, c'est lié au fonctionnement du moteur Skyactiv qui n'a pas besoin, en essence, de filtre à particules malgré l'injection directe.
Oui. Et oui. D'accord, donc il faut en règle générale quand même il faut.
Mais vous savez quoi, ça m'a interpellé votre question, donc je pense que je vais appeler Mazda cette semaine et puis je vais leur poser la question et savoir pourquoi ça marche pas.
Oui, et alors en plus moi j'ai dans l'application Mazda j'ai le mode d'emploi de la voiture en français mais qui vient d'un autre pays et dedans il est dit. Pour le carburant utilisé qu'on peut rouler à l'éthanol. Et je sais que ce moteur, dans d'autres pays, roule à l'éthanol.
Ben voilà. Ben c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un moteur qui, je crois qu'il est de mémoire, il est à 14 de taux de compression, c'est énorme pour un moteur essence et c'est très bien à l'éthanol. Plus on augmente en fait l'éthanol à ce qu'on appelle un indice d'octane plus élevé, l'indice d'octane c'est ce qui est écrit sur la pompe, SP95 c'est 95, 98 c'est 98, l'éthanol il est à 104. Donc ça permet d'adopter des taux de compression beaucoup plus élevés et d'avoir un meilleur rendement moteur. Mmh. Donc comme le moteur il est déjà avec un taux de compression plus élevé, à mon avis, il doit adorer l'éthanol sans boîtier.
Merci beaucoup Laurent. Allez, 8h27, on revient dans un instant avec notre Minute Verte tout à l'heure. Le retour de Hummer. Mais vous savez que Hummer a une image quand même assez déplorable en termes d'environnement. Bah, ils essaient de changer tout ça, Jean-Luc va nous expliquer pourquoi.
C'est pas ils essaient, ils ont carrément tout changé.
Et bien voilà, on en parle dans un instant.
C'est comme si François Sorel devenait rigolo à la radio, vous voyez. C'est un peu vraiment un changement du tout au tout.
Ouais, là, ça serait quand même une sacrée révolution. Et puis Michel sera avec nous. Il est possesseur d'un 308 CC de 2000. 2010 et on lui conseille de changer la courroie de distribution. Il se demande si c'est vraiment une bonne idée et s'il doit suivre les préconisations de son concessionnaire. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau.
Il est 7h31, c'est RMC, le week-end des experts et l'automobile. On est là jusqu'à 10h, Jean-Luc Moreau.
Oui, on a Samy tiens, qui nous demande en réaction justement à la question précédente. Oui. Il nous dit bonjour, les nouveaux moteurs essence sont équipés de FAP. Je voulais savoir pourquoi on ne peut pas mettre de boîtier éthanol. On ne peut pas mettre de boîtier éthanol parce qu'il faudra que les fabricants de boîtiers arrivent à prouver que le passage à l'éthanol ne perturbe pas le fonctionnement du filtre à particules. Voilà, c'est juste ça. Mais en fait, de toute façon, vu qu'à l'éthanol, on émet beaucoup moins de particules qu'à l'essence, et on émet déjà beaucoup moins de particules à l'essence qu'au diesel, en fait, le filtre à particules sur un moteur qui fonctionnera à l'éthanol, il sert pratiquement à rien, il n'a rien besoin d'éliminer. Donc ça ne va pas perturber son fonctionnement, vu qu'il n'a pas besoin de travailler. C'est un peu comme si on demandait si ça perturbe le fonctionnement de François de travailler, alors que de toute façon, déjà, il est en vacances toute l'année. Quoi. C'est un peu ça.
Vous êtes fier de vous là?
Non, pas du tout. Mais non.
Puis en plus, c'est un peu bancal.
Ouais,
je pense que vous.
Ouais, c'est bancal. Ouais, c'est pas exactement ça que je voulais dire.
À ces humoristes débutants qui ratent leur van.
Ouais, c'est vrai.
C'était un peu ça.
Ouais, l'humour désuet, vous savez.
Exactement.
C'est ça,
l'humour des années 80.
Même avant, je crois qu'on peut dire.
La minute verte dans un instant. Michel, auparavant, est avec nous au 32-16. Bonjour, Michel.
Bonjour, messieurs.
Bienvenue, Michel. Michel de Nice.
Voilà, tout à fait. Alors, merci d'abord pour vos. Vous m'entendez là? Très bien.
Vous entend parfaitement.
Ouais. Eh bien, c'est parfait. Merci pour votre émission sanitaire pour nos voitures. C'est déjà ça. En ce moment, c'est l'époque. Écoutez, je vous ai appelé parce que j'ai une demande de remplacement de courroie de distribution. Non pas parce qu'on l'a regardé, mais simplement parce que j'ai fait l'île de 308cc. Elle date de 2010, donc elle a déjà roulé 145 000 km. Et je me demandais si à 145 000 km, il est normal de changer une courroie de distribution.
Alors, attendez.
Sur une Peugeot.
Ah ouais, non, mais attendez, parce que c'est quoi comme moteur que vous avez sur votre Peugeot?
C'est
moteur
un
essence ou diesel?
Non,
déjà
c'est un moteur diesel.
D'accord. C'est un quoi? Un 1.6 HDI 110 chevaux?
Oui, exactement, oui.
Voilà. Déjà, vous allez être dans la préco parce que il me semble que c'est 240 000 km. Alors bon, vous en êtes loin, il vous a encore 100 000 km de rab, mais c'est 240 000 ou 10 ans. Premier
oui,
des deux termes échus. Et voilà, elle a 10 ans. Donc vous allez me dire, est-ce que faut vraiment que je le fasse? Bon,
oui.
Il n'y a pas d'urgence absolue. Par contre, il va falloir le faire, on va dire, dans l'année qui vient, parce que une courroie de distribution qui lâche sur un moteur comme ça, c'est adieu le moteur. Et dans votre cas, une voiture qui a 10 ans, ça va être adieu la voiture, parce que sinon ça va vous coûter le prix de la voiture de le remplacer. Donc c'est un petit peu dommage. C'est une belle auto, il faut la garder. Donc il va falloir effectivement faire la courroie de distribution, comme on dit. Alors ce qui coûte cher dans le remplacement de la courroie de distribution, c'est pas la courroie en elle-même, c'est pas les accessoires, c'est pas les tendeurs.
C'est la main-d'œuvre.
C'est la main-d'œuvre.
Et oui.
Donc vous êtes, vous, dans la région de Nice, je vous conseille, je sais pas, de regarder les tarifs, même éventuellement un petit peu plus loin, ou quand vous partez chez des amis, ou quand vous partez en vacances un peu plus loin, vous regardez. C'est presque du simple au double, hein, les prix des remplacements de courroie de distribution en fonction de la région dans laquelle on se trouve, en fonction du coût de la main-d'œuvre, c'est ça. On comprend bien que le garage qui est en plein centre de Nice, il va avoir des frais fixes qui vont être plus élevés que celui qui va être dans l'arrière-pays, dans un petit village où il aura un garage qui ne lui coûtera rien, quoi.
Oui, mais les garagistes sont obligés de vous donner une garantie lorsqu'ils vous font ça.
Bah de toute façon, alors c'est dans les préconisations constructeurs. Bon, votre voiture elle a 10 ans, donc si en admettant que demain il y a une grosse panne, de toute façon vous pouvez rien espérer de la part de Peugeot. C'est pas la peine de monter au créneau. Quand la courroie de distribution sera changée, si elle lâche un an après, enfin moins d'un an après, oui, bien évidemment, vous avez la garantie qui est liée au remplacement de cette pièce. Mais ça ne vous redonne pas une garantie constructeur de 3 ans ou 2 ans, hein. Attention, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est juste pour la pérennité du moteur qu'il faut changer cette courroie de distribution. Je vous assure, une courroie de distribution qui lâche, en plus, ça ne prévient pas, quoi. C'est ça qui est pernicieux. C'est qu'une chaîne de distribution, ça commence à faire du bruit quand ça se détend, donc ça dit attention, là, je vais pas bien, je suis malade, mais une courroie de distribution, rien du tout. Courroie de distribution, ça lâche d'un coup, et en général, bon, après, on a les yeux pour pleurer. Donc faites-le, parce que une courroie, ça s'use, même quand on roule pas. Il y a du caoutchouc, il n'y a pas que du caoutchouc, mais c'est une matière vivante. Les changements de température, la chaleur, quand le moteur tourne, ensuite le froid l'hiver, tout ça, bah, ça provoque des craquements. On le voit bien d'ailleurs, hein, quand on a des... Ah, tiens, si vous avez un élastique chez vous, vous le laissez au soleil, vous allez voir, au bout de deux mois, il ne sera plus vraiment élastique. Donc bon,
bien sûr.
Ça vieillit naturellement, donc c'est pour ça qu'il faut les remplacer.
Bien sûr. Alors j'ai une deuxième question subsidiaire rapidement. Simplement, j'ai un problème sur mon ordinateur de bord qui m'indique sans arrêt que mes pneus sont crevés. Or, ils ne le sont pas. Alors j'avais demandé déjà au départ, il y a 10 ans, à Peugeot de régler ce problème, qu'ils n'ont jamais été capables de me régler. Est-ce que vous avez une idée là-dessus?
Est-ce que quand vous gonflez vos pneus, vous remettez votre système, vous le réinitialisez?
Non.
Ah bah je vous conseille de faire ce que personne ne fait jamais, de vous plonger dans la notice technique de la voiture. Donc vous gonflez vos pneus à la bonne pression, vous réinitialisez le système et normalement il ne doit pas vous indiquer que c'est crevé quand
et
vous.
Et comment faire pour
sur votre voiture, je le sais pas parce que j'ai pas lu le manuel d'entretien, mais c'est votre voiture donc vous devez pouvoir le trouver dedans
ou
vous
le trouver sur internet.
Oui parce qu'en fait c'est les systèmes quand vous avez une roue qui se dégonfle en fait. Alors il y a aujourd'hui des capteurs de pression qui mesurent vraiment la pression dans les pneumatiques, mais votre voiture je pense pas que ce soit ça. Elle se sert des capteurs ABS, donc elle se sert en fait de la circonférence du pneumatique pour dire s'il y a un pneu qui a une pression plus basse que les autres. Parce qu'un pneu qui a une pression plus basse aura une circonférence qui est moins importante. Donc, à partir de cette donnée, l'ordinateur de bord va vous dire attention, il y a un pneu dégonflé. Voilà. Bon. Le truc, c'est qu'il faut lui indiquer quand est-ce que les pneus sont gonflés. Donc, vous gonflez les pneus, vous réinitialisez le système et il se dit, bon, voilà, le bon diamètre du pneu, c'est ça. Et si ça varie, je préviendrai le constructeur. Alors, le seul problème de ce système-là, c'est si les quatre pneus se dégonflent en même temps, il est incapable de le voir puisqu'il a quatre circonférences qui sont équivalentes sur les pneumatiques. Mais dans votre cas, je suis sûr que c'est ça et je suis sûr que c'est pas réinitialisé. Mais je comprends pas pourquoi ils vous l'ont pas fait chez Peugeot. Et si ça marche pas, bah c'est que vous avez vraiment un défaut sur le calculateur. Et alors là, après, bon, bah vous laisserez comme ça parce que changer un calculateur sur une voiture, c'est au moins 1 500 € sur un modèle comme ça, donc c'est pas la peine.
Et oui, c'est un peu l'ordinateur de bord, c'est ça?
Oui, c'est l'ordinateur.
Voilà,
de bord.
Donc forcément.
C'est pas l'ordinateur de bord, c'est le calculateur.
Le calculateur, ouais. Merci beaucoup Michel pour votre appel. Il est quasiment 7h40. Il est temps de retrouver notre minute verte.
RMC, votre auto.
La minute verte.
Et on va parler ce matin du retour de Hummer, qui est, c'est vrai, l'icône de la voiture.
Ouais, alors
sale,
avant,
qui pollue.
Ouais. Alors avant, c'était plutôt mauvaise humeur, hein, et aujourd'hui, ça va être bonne humeur. Voilà. Pourquoi? Bah parce que avant, c'était la voiture sale, polluant. C'est vrai que.
Mais oui.
Le Hummer H2.
Qui était montré du doigt d'ailleurs.
Oui, le Hummer H2, bon, on va dire c'était un gros pavé dans la mare des écologistes.
Ça, c'est clair.
Le truc qui tuait 15 ours polaires au kilomètre.
Oui. Voilà. C'est vrai ou pas? Enfin, je veux dire,
c'est vrai. Bah, un CX d'Armor Normand, une consommation de 25 litres au 100, franchement,
oui,
c'était vraiment. Voilà, on était presque dans la provocation.
Qui fabrique les Hummer? Ça vient d'où ça?
En fait, au départ, c'est une marque qui était indépendante. Ils ont fabriqué le Humvee qui était le modèle pour l'armée américaine.
Oui,
et
oui.
Puis, il y a certaines stars qui sont intéressées à ce véhicule militaire, en particulier Arnold Schwarzenegger qui avait fait faire un modèle donc pour lui. Et ils ont sorti un modèle pour les particuliers, le Hummer H1 ensuite.
La marque parce que Schwarzenegger, qui maintenant prône en fait l'environnement, l'écologie,
complètement, ouais.
Était le point de départ en fait de la démocratisation du Hummer. Quoi.
Exactement. C'est alors ce H1 ensuite, en fait, la marque a été rachetée par General Motors et appartient toujours à General Motors aujourd'hui.
D'accord.
Donc ils ont arrêté la commercialisation des Hummers parce que c'était politiquement incorrect.
Dans le monde entier.
Ouais, même si à un moment il y a une époque, il y a une université américaine. Aujourd'hui, c'est bien de le dire parce qu'avec le recul, on se rend compte de la stupidité de l'étude. Il y a une université américaine qui avait fait une étude en disant que l'impact d'un Hummer H2, alors c'était un Hummer H2, était moins important sur la durée de vie que celui d'une Toyota Prius.
Tiens,
bon, vous voyez, on essaye vraiment de prendre les gens pour des.
Oui.
Hein, là, les andouilles, on va dire.
Ils étaient tous endormis, non, quand ils ont fait cette étude.
L'étude avait été commanditée par un pétrolier. C'est très étonnant.
D'accord.
Voilà. Bon, donc, alors là, ils ont laissé Hummer de côté parce qu'ils se sont dit, bon, finalement, mauvaise image. Et aujourd'hui, Hummer revient. Alors, Hummer revient avec un pick-up, le Hummer EV, qui est un, comme son nom l'indique, EV, electric vehicle. Donc, voiture électrique. C'est-à-dire, il a complètement changé. Il conserve quand même un petit peu l'ADN du Hummer. C'est-à-dire que quand on va le voir, on se dit, bah, tiens, c'est un Hummer, puisqu'il est quand même des formes un petit peu carrées, mais tout le reste change. Alors, en particulier, la motorisation. Alors, bon, ils n'ont pas fait les choses à moitié, hein, parce que quand on achète un Hummer, bon, on n'achète pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, 3 moteurs, 2 batteries. Alors, 1000 chevaux pour les moteurs. 2 batteries qui s'appellent Ultium. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une batterie Ultium ?
Ultium.
Eh, voilà, la batterie Ultium. Après lithium, la batterie Ultium. En fait, c'est une batterie coréenne, c'est LG Chemical.
Mm-hmm.
Bon, LG, c'est... Vous avez beaucoup de batteries LG dans les téléphones aujourd'hui.
Oui. Ce sont de vrais experts voilà. Dans le domaine de la batterie.
Qu'est-ce qu'elle apporte, cette batterie ? Elle règle un des problèmes que les écologistes pointaient du doigt depuis un moment. Et à chaque fois qu'on vous parle de voiture électrique, on vous dit « Oui, mais il y a du cobalt dans les batteries, c'est terrible, c'est polluant. » Eh bien, là, il y a beaucoup moins de cobalt dans cette chimie. C'est ce qu'on appelle une chimie NCMA, pour nickel, cobalt, manganèse, aluminium, qui remplace ce qui était avant le nickel, le NMC, hein, un nickel, manganèse, cobalt. Donc, plus de cobalt dedans, des caractéristiques meilleures. Ils annoncent 1,6 million de kilomètres avec la batterie. Alors, c'est quand même déjà une grosse batterie qui fonctionne sous 800 volts, donc qui pourra prendre de la charge rapide. On pourra recharger 160 km d'autonomie en 10 minutes. C'est pas la charge ultra rapide encore qu'on aura, en particulier avec ce qu'on a évoqué il y a 15 jours avec Nahwa Technology, avec cette nouvelle technologie pour les électrodes qui permettra vraiment de faire de la charge ultra rapide. Mais c'est déjà quand même pas mal. Alors, ce joli engin reste un engin tout-terrain. D'ailleurs, je vous invite, il y a des vidéos qui tournent sur YouTube où on voit la voiture franchir. Il y a quand même une garde au sol de 40 cm qui peut augmenter parce que vous avez une suspension pneumatique adaptive qui peut élever la carrosserie de 15 cm et demi.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Vous pouvez passer à des endroits complètement dingos. Vous pouvez franchir une marche verticale de 45 cm. Vous pouvez passer dans le lit d'une rivière, un passage de gué jusqu'à 60 cm. Vous avez des caméras en dessous de la voiture. Alors, le dessous de la voiture est blindé parce qu'évidemment, il y a les batteries. Mmh. Et comme c'est un véhicule qui est adapté vraiment au tout-terrain, vous avez le dessous de la voiture est blindé, vous avez même des caméras en dessous, vous pouvez voir ce qui se passe sous la voiture.
C'est-à-dire que si, par exemple, la voiture est immergée en partie...
Si vous écrasez quelqu'un, vous pouvez le voir sous la voiture.
Quand vous dites qu'elle est blindée, ça veut dire qu'elle peut être immergée sans problème, les batteries ne souffriront pas de ça.
Vous pouvez, déjà, passage de gué jusqu'à 60 cm, ça veut dire que les batteries seront évidemment sous l'eau, puisque vous avez 40 cm de garde au sol.
D'accord.
Donc, évidemment, c'est complètement étanche, mais au-delà de ça, c'est renforcé, c'est-à-dire que si vous faites du tout-terrain, qu'il y a des cailloux, vous prenez un coup, vous n'allez pas abîmer les batteries qui sont dans le soubassement de la voiture. C'est une voiture qui est aussi... 4 roues directrices et qui a un mode de fonctionnement alors qui s'appelle crab walk. Le crab walk. En fait, la voiture, les roues peuvent se diriger toutes dans le même sens et la voiture peut avancer en crabe.
Ah oui.
Vous allez me dire, ça sert à quoi ? Ça sert, si vous êtes en tout terrain, il y a certaines difficultés où effectivement, pour les éviter, c'est bien de faire ce crab walk.
D'accord.
Et puis bon, ça peut impressionner aussi.
Oui, les crabes, par exemple.
Ouais, voilà, exactement. De là à dire que ce serait une voiture qui va voler dans un panier de crabe, je n'irai pas jusque-là, n'est-ce pas ?
On n'est pas jusque-là.
Voilà. Bon, 0 à 100 en 3 secondes, on ne l'avait pas dit tout à l'heure. Hein. Donc, vous rendez compte qu'aujourd'hui, on va avoir quand même, parce que c'est une grosse patate le truc, hein, c'est une énorme voiture, on va avoir un engin qui est une grosse patate, qui va mettre minable toutes les Ferrari et les Porsche au démarrage quand même.
C'est dingue.
C'est un truc de fou. Hein. Ceux qui disent la voiture électrique, c'est pas sympa à conduire, ils ont jamais mis leurs fesses dedans. Alors bon, ça va arriver, c'est un peu en retard à cause de la Covid-21.
Il aurait dû normalement être. On a une idée du prix ou pas ?
Ouais, on a une idée du prix. Très précise d'ailleurs, puisque 112 595 dollars.
D'accord.
Voilà. Livraison comprise. Il y aura 3 autres versions qui sont prévues dans les années à venir, qui seront des versions. Alors, la version de lancement sera la version haut de gamme avec le moteur le plus puissant, la plus grosse batterie, et on aura ensuite des déclinaisons
un petit peu moins chères.
Ça démarrera aux alentours de 60 000 dollars pour le premier prix.
Ok. 9h moins le quart, on revient dans un instant. Florent sera là. Il aimerait changer sa Clio 2 qui a une quinzaine d'années. Il sait pas trop ce qu'il aimerait choisir. Il aimerait avoir vos conseils. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, c'est votre auto. On revient dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau.
C'est C'est le retour de votre rendez-vous auto sur RMC. On est là jusqu'à 10h. Il est 7h50 ouais. Quasiment.
François, si Michel était mon prof de physique, j'aurais eu droit à zéro. Et il a raison. En plus, j'ai dit... un pneu dégonflé, la circonférence varie. C'est vrai que la circonférence, ça reste la même. C'est le diamètre du pneumatique qui va varier. C'est ça que le calculateur prendra en compte pour dire il y a un pneu dégonflé. Voilà. Merci Michel. Michel. Oui, c'est Michel. Enfin, voilà. Merci Michel.
Vous avez un problème avec les prénoms, hein, quand même.
Non, Gérard, absolument aucun.
Allez, on repart avec vos questions tout de suite. Florent est avec nous. Bonjour. Florent.
Bonjour
Florent.
Bonjour Jean-Luc. Bonjour François.
Florent de Taverny.
Oui.
Voilà, qui nous appelle donc sur un poste à galène.
Oui, on entend des cric. Mais enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qui vous arrive, Florent ? On vous écoute.
J'ai une Clio 2 de 15 ans qui a 320 000 km. Ouais. Et elle commence à être fatiguée.
Ah, c'est bizarre.
Oui, c'est bizarre. Voilà. Elle est neuve, elle vient d'être rendée. Quoi. C'est ça le truc.
Voilà. Elle a rempli toutes ses fonctions. J'ai eu zéro problème pendant jusqu'à à peu près 300 000 km. Mais là, ça commence à devenir compliqué. Lorsque je freine, j'ai les warnings qui s'allument. Il faut que je fasse. Je pense qu'il faut que je refasse l'embrayage parce que ça commence à craquer un peu.
Ah, vous l'avez jamais changé à 320 000 km ?
C'est ça. Oui.
Et ben il est. Alors vous faites beaucoup de routes, j'imagine, parce que si vous faisiez de la ville, vous auriez pas fait autant de kilomètres que ça.
Alors effectivement, j'ai plutôt de la route autoroute.
Oui, ben voilà. Ça explique pourquoi elle a fait autant de kilomètres et pourquoi certaines pièces d'usure, bon là l'embrayage en l'occurrence, ont duré aussi longtemps. C'est exceptionnel, hein, un embrayage 320 000 kilomètres, franchement il n'y a pas beaucoup de gens qui ont... À part le VRP qui fait de l'autoroute, qui fait 1000 bornes par jour que d'autoroute, il n'y a pas grand monde qui va faire autant de kilomètres que ça avec un embrayage. Moi j'en connais qui voulaient crame en 10 kilomètres les embrayages d'ailleurs.
Donc voilà, j'ai mon petit garagiste qui me propose une Clio d'occasion, hein, où il a tout refait dessus, pas trop cher, parce que je n'ai pas beaucoup de moyens, donc il me propose quelque chose à 2 000 €, il a refait l'embrayage, il a même refait le moteur et tout.
D'accord.
Et puis d'un autre côté, je vois toutes ces super belles voitures électriques dont vous parlez tous les dimanches et tout, avec leur autonomie qui augmente et tout ça. Je sais vraiment pas quoi prendre, je sais pas quoi faire. Je ne pense pas que je pourrais avoir une possibilité de prendre en mensualité. Parce que
le problème après les mensualités telles qu'annoncées par les constructeurs. Alors, il y a eu un gros débat c'était Kia qui nous annonçait Hyundai qui nous annonçait à 45 € par mois.
Ah oui, c'est ça. Truc un peu bizarre.
Ouais, non mais bon en fait, si vous prenez une Zoé, l'offre démarre, je crois, en location longue durée à 99 € par mois, donc moins de 100 €. Le problème, c'est que vous avez...
Après, il faut rajouter la location de la batterie.
Et c'est ça, ouais. Alors, le problème, c'est que vous avez d'abord une première mensualité à payer qui est élevée, je crois que c'est 2 000 €. Donc, c'est en gros le prix de la voiture que vous voulez acheter, voilà. Et puis après, vous payez quand même 99 € par mois. Alors, je pense qu'il y a la location de la batterie qui est comprise quand même dans cette location longue durée. Et vous n'avez pas commencé à rouler. Donc, ça sera de toute façon plus cher que votre voiture à 2 000 €. Ça, c'est clair. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est encore trop cher pour vous.
C'est un peu ça qui m'embête un petit peu, quoi. C'est que j'aurais bien aimé faire un petit geste.
On est d'accord. Florent, on est tous d'accord. Demain, c'est un pari que je vais vous prendre aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on sait que globalement, à prestation équivalente, la voiture électrique coûte à peu près le même tarif qu'un véhicule thermique. Alors, c'est plus cher à l'achat, mais comme c'est moins cher à l'entretien et moins cher au kilomètre parcouru, au global, le coût kilométrique est à peu près équivalent. Dans 5 ans, un véhicule électrique, je pense, sera 20% inférieur en coût kilométrique à un véhicule thermique. Donc, la courbe va s'inverser, c'est-à-dire que ça sera plus accessible d'avoir un véhicule électrique que d'avoir un véhicule thermique. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ça reste quand même des voitures chères, donc il faudra attendre que ça se démocratise plus. Moi aussi, demain, je pense que quand je remplacerai la Yaris hybride, qui en plus roule à l'éthanol, donc coûte vraiment pas cher, et qu'elle sera usée, mais on a du mal à les user, ça ne s'use pas vite, je la remplacerai par un véhicule électrique. Ça, c'est clair. De toute façon, c'est inéluctable. On peut prendre le problème dans tous les sens. Alors, Il y a aussi, tiens, c'est un débat qu'on avait hier, qu'on a eu longuement avec les gens qui étaient là. Aujourd'hui, on est un peu dans un schéma noir-blanc. C'est-à-dire que on était dans du diesel et tout le monde dit on passe à l'électrique. Il y a plein de solutions intermédiaires qui sont viables. On parle d'éthanol, on parle de GPL, les moteurs thermiques vont évoluer également. Il y aura des biofuels, donc des biocarburants différents de ceux qu'on connaît qui vont arriver. Il y a l'hybride rechargeable. Donc, il y a plein de solutions. On va pas passer du diesel à l'électrique. Mmh. Hein, demain, c'est pas ou noir ou blanc. Il y aura des nuances de gris, comme on dit. Voilà.
C'est beau,
hein.
Magnifique.
Ouais, je sais pas s'il y en aura 50. Mais on verra.
Véritable poète.
Ouais, il faut le dire vite alors. Hein. Merci Florent.
Poète même.
Merci à vous.
À bientôt. Et bon dimanche.
Au revoir Florent.
À vous aussi.
Allez, avant de retrouver la météo et les infos de 8 heures, ça sera bien 8 heures, hein, c'est ça? Parce que je ne sais plus trop. Oui, c'est bien 8 heures. Oui, parce qu'on a une pendule qui n'est pas à l'heure, donc on ne sait plus trop. Oui, attendez, on a le téléphone. Donc voilà. L'actu de la semaine maintenant, avec Anne Hidalgo qui confirme Jean-Luc vouloir supprimer de moitié les places de stationnement des voitures à Paris.
Bon, c'était dans l'air du temps, hein, depuis sa réélection à la tête de la municipalité parisienne en juin dernier. La place dévolue aux automobilistes pour y stationner leur véhicule allait se raréfier, mon bon monsieur. Bon, la capitale compte un peu moins de 140 000 places en surface. L'actuelle majorité parisienne entend dédier quasiment la moitié à d'autres usages que la voiture d'ici la fin de la mandature en 2026, et notamment un agrandissement des trottoirs, sans compter les terrasses de café, vous l'avez vu François, qui ont déjà remplacé les places de stationnement depuis le déconfinement et dont l'existence a été prolongé jusqu'en juin 2021. Une consultation publique via une plateforme internet vient ainsi d'être lancée auprès des habitants de la capitale afin de connaître leur choix quant au sort de ces 70 000 espaces qui vont être libérés. Mais les proches d'Anne Hidalgo n'ont pas caché leurs intentions à venir. David Béliard, l'adjoint au maire chargé des transports et des mobilités dans la capitale, a déjà annoncé que de nouvelles infrastructures de mobilier urbain pour les vélos, des jardins, des toilettes publiques, des fontaines, des terrasses, de cafés, des espaces pour faire du sport seraient privilégiés au détriment des véhicules motorisés. Les futures mesures qui risquent de faire tiquer les automobilistes ne résidant pas à Paris ou qui n'en ont pas les moyens et qui sont obligés d'emprunter leur véhicule chaque jour pour se rendre dans la capitale et y travailler. La seule bonne nouvelle, c'est pas vraiment une bonne nouvelle parce qu'ils sont extrêmement chers. Le prix des parkings en sous-sol ne devrait pas augmenter.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais, vous parlez, quel est le gars avec sa
qui
voiture
qui va mettre 10 euros ou 12 euros de parking pour 3 heures.
Ouais, mais qui va dépenser 40 ou 50 euros dans la journée pour venir travailler parce qu'il n'a pas d'autre choix que prendre sa voiture.
Ouais, c'est clair.
C'est pas possible.
C'est un vrai problème. Jean-Luc, bientôt 8 heures. On va revenir dans un instant pour notre deuxième partie.
Et vous avez remarqué, hein, on supprime les voitures, qu'elles soient électriques ou à charbon. Hein. C'est on supprime les voitures.
Oui.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette volonté aussi de promouvoir l'électrique dans Paris, hein, visiblement. Hein.
Non.
Les places autolibres disparaissent.
Ouais.
Voilà. Enfin, il y a toujours
on
stationnement.
On veut supprimer la voiture.
Non, il y a toujours le stationnement gratuit pour les véhicules électriques. Alors, je ne sais pas.
Oui, mais s'il n'y a plus de stationnement, il peut être gratuit.
Bah, il y en aura quand même, puisqu'ils enlèvent que la moitié des places. Donc, il y aura quand même l'autre moitié des places.
10 000 places, c'est pas beaucoup. Hein.
Bah oui. Jean-Luc, on revient après la météo et les infos de 8h. Pardon, à tout de suite, c'était RMC.
RMC jusqu'à 10h. Votre tour.